Victoria. Que ressent un père qui abandonne son enfant? Se réveille-t-il le matin avec le souvenir du premier sourire de son fils? Peut-être celui de son bébé bien calé au creux de son bras, de ses yeux bleus qu'il dévisageait gravement, de la moue songeuse de sa petite bouche en cœur. Se souvient-il de la première fois où son fils a dit « papa » ou de la façon dont Evan courait vers la porte et s'accrochait à ses jambes? Se torture-t-il à coups de « et si » et de « on aurait pu » à l'idée qu'il se voyait un jour entraîner l'équipe de foot de son fils, qu'il rêvait de l'emmener voir son premier match des Patriots ou peut-être d'aller ensemble applaudir les Celtics au Garden? Contemple-t-il le trou béant qui s'ouvre dans son avenir, là où auraient dû se trouver les leçons de conduite, les conversations entre hommes et la première séance de rasage? Sait-il que, dans les jours et les semaines qui ont suivi, Evan s'endormait encore en pleurant son père qui ne revenait jamais? Le jour où Michael et moi sommes enfin rentrés à la maison avec Evan, tout juste sorti du service de néonatologie, nous étions convaincus que le pire était derrière nous. Il a tenu assis à 3 mois, crapahuté à 10, le pédiatre était épaté. Il pleurait, parfois pendant des heures, il dormait mal, ses siestes étaient pratiquement inexistantes. J'ai lu des livres sur diverses méthodes pour favoriser le sommeil et signaler nos difficultés aux médecins. « Les bébés pleurent », m'a-t-il assuré. Evan ne présentait aucun symptôme de colique et prenait régulièrement du poids, ce qui est toujours un souci avec un préma. Du point de vue des spécialistes, Evan était un bébé difficile, mais formidable. Michael et moi prenions ses avis à cœur. C'était notre fils, notre expérience de parent. Difficile, mais formidable. Michael mettait beaucoup la main à la pâte à cette époque. Quand il rentrait du travail, il me relevait et faisait les 100 pas dans la maison avec Evan en pleurs sur son épaule. Il m'encourageait à prendre du temps pour moi. Lire un livre, m'offrir un bain moussant, faire une sieste. Ensemble, nous allions y arriver. À 14 mois, Evan est passé du 4 pattes à la course. D'un seul coup, il a beaucoup mieux dormi la nuit. Peut-être parce qu'il courait toute la journée d'un endroit à l'autre comme un dératé. J'ai cessé de bercer indéfiniment un bébé pour courir fébrilement après un tout petit. Evan ne semblait pas bien se repérer dans l'espace. Il se cognait dans les murs, tombait des chaises, se mettait dans la trajectoire des balançoires. Sur une aire de jeu, il était un danger pour lui-même et pour les autres. Il n'avait pas peur des inconnus. Ne pouvait pas croire que des enfants aient envie de jouer seuls. Il débarquait au milieu des groupes, bousculait les autres pour se faire une place dans les bacs à sable. Il avait son sourire radieux et ses yeux d'un bleu éclatant. À 14 mois, c'était comme si le monde n'était déjà plus assez grand pour lui. Il avait tant à faire, tant à voir et tant à dire. Un jour, une femme d'un certain âge s'est assise à côté de moi sur un banc public, rien que pour écouter le rire magique d'Evan qui se roulait dans un tas de feuilles mortes. « C'est une vieille âme », m'a-t-elle dit en partant. Une très vieille âme, regardez-le, écoutez-le. Il vous enseignera ce que vous avez besoin de savoir. C'est à peu près à cette époque qu'Evan a cessé de porter des vêtements. Il avait toujours pleuré quand nous l'habillions autrement qu'avec du coton. Désormais, il refusait même cela. Je retrouvais chemise, chaussettes, pantalons, couches semées dans le couloir, ou parfois sur les portiques. Je lui remettais ses vêtements, il les réenlevait. Nous sortions moins souvent. Les enfants de 18 mois tout nus ne sont pas toujours les bienvenus dans les jardins publics. Evan a aussi pris de nouvelles habitudes inquiétantes. Par exemple, il grimpait sur le plan de travail de la cuisine pour jouer avec les couteaux. Il aimait les tenir par la lame, comme s'il éprouvait le besoin de s'ouvrir les paumes pour comprendre combien le fil était aiguisé. Même chose pour la cuisinière. J'ai renoncé à cuisiner quand Michael n'était pas à la maison. Evan était obsédé par les plaques de cuisson. Plus nous lui disions qu'elles étaient chaudes, plus il fallait qu'il pose ses doigts sur les spirales rougeoyantes. C'était comme de vivre avec un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un jour, il a cassé tous les œufs pour écouter le bruit que ça faisait. J'étais au téléphone. Le lendemain après-midi, il a jeté tous mes flacons de parfum sur le carrelage pour voir jusqu'où voleraient les éclats de verre. J'étais dans les toilettes du bas. Un après-midi, je l'ai surpris en train d'escalader le vaisselier, dont j'ai ensuite prudemment condamné les portes avec des cadenas. J'étais sous la douche quand j'avais réalisé que je ne l'entendais plus. J'avais alors traversé la maison à toute vitesse, vêtue d'une simple serviette. Nous avons consulté notre premier spécialiste, un neuropédiatre. Et nous avons reçu notre premier diagnostic. Evan souffrait d'un trouble d'intégration sensorielle. Son cerveau recevait correctement les informations de ses cinq sens, mais ne parvenait pas à hiérarchiser les sensations. Il vivait donc dans un perpétuel état d'hyperstimulation, comme un verre plein à ras-bord, nous a expliqué le spécialiste, où chaque nouveau son, odeur, contact ou goût serait une goutte de plus dans un récipient débordant. Il y avait des choses qu'il ne supportait pas du tout. Le bruit d'une fermeture à glissière, le toucher du jean. Et d'autres dont il faisait une obsession, dont il voulait qu'elle pénètre le fouillis de son cerveau. Ce qui est coupant, ce qui est chaud, ce qui fait mal. Comme un papillon de nuit, il était attiré par la flamme. Evan a commencé à voir un ergothérapeute. Michael a convenu que j'avais besoin d'aide, alors nous avons engagé la première d'une série de 14 nounous à mi-temps. Je faisais des promenades pour me vider la tête et me délasser le corps, et ensuite je rentrais retrouver mon petit sauvage et sa folle impétuosité. Il m'envoyait à la renverse avec ses câlins. Illuminait le monde de son rire exubérant. Nous jouions à nous battre, à nous chatouiller, faisions d'interminables parties de cache-cache. Ensuite, il se mettait à hurler parce qu'il fallait se laver les dents. Entrait dans une colère noire parce qu'on lui avait servi des pâtes dans une assiette qui n'était pas de la bonne couleur. Lançait une des balles de golf de Michael dans la fenêtre du séjour parce que nous lui demandions de mettre des chaussures, me giflait parce que je lui disais que c'était l'heure du lit. Notre première nounou a démissionné, puis la deuxième, la troisième. Quand Evan était heureux, il était vraiment heureux. Mais quand il était en colère, il était vraiment en colère. Et quand il était triste, il était vraiment, vraiment triste. Nous avons reçu notre deuxième diagnostic, trouble de l'humeur SAI, sans autre indication. À 4 ans, on l'a mis sous clonidine, un médicament généralement employé dans les cas d'hyperactivité pour réguler l'impulsivité et les comportements d'opposition. Nous espérions que la clonidine calmerait le jeu et permettrait à Evan d'acquérir une certaine maîtrise de lui-même. Dans un premier temps, il y a eu un progrès. Il dormait mieux la nuit, était moins maniaque le jour. Entre la clonidine et une auxiliaire individuelle, il semblait possible qu'il s'en sorte au jardin d'enfants. « Du temps », nous disions-nous, Michael et moi. Evan avait simplement besoin de temps. Du temps pour l'ergothérapie qui soulagerait son hypersensibilité, du temps pour développer ses capacités d'adaptation. Nous rencontrions des difficultés, mais quels parents n'en rencontrent pas ? Evan est entré en maternelle. Il coupait la parole à la maîtresse, riait à contre-temps, criait s'il fallait interrompre une activité qui lui plaisait et refusait les activités qui ne lui plaisaient pas. En 8 semaines, Michael et moi avons été convoqués à l'école une bonne dizaine de fois. Nous étions dans nos petits souliers. Des parents sérieux et soignés qui ignoraient totalement pourquoi leur enfant était un petit voyou de 5 ans. Nous aimions Evan. Nous lui fixions des limites, nous nous battions pour lui. Mais quand Evan avait une idée en tête, il n'en démordait pas et était prêt à recourir à tous les moyens pour parvenir à ses fins. Troisième et quatrième diagnostic, hyperactivité et trouble anxieux, sans précision. Comme l'école insistait, nous l'avons mis sous Lexapro, un antidépresseur. Le Lexapro influe sur le taux de sérotonine dans le cerveau. On nous a dit que ça calmerait Evan, que ça l'aiderait à se concentrer. Les informations se bousculent terriblement dans le cerveau de votre fils, nous a expliqué le spécialiste. Imaginez-vous que vous vous trouviez au milieu d'une manifestation et que vous essayez de ne pas bouger, alors que des cornes de brume retentissent à vos oreilles et que vous sentez les manifestants défiler à côté de vous. Evan vous aime, il veut bien faire, mais il n'arrive pas à sortir de la manifestation suffisamment longtemps pour être lui-même. Nous avons docilement suivi la prescription. C'est comme ça qu'on fait en Amérique, non ? Votre enfant est un perturbateur, il se tient mal, il ne rentre pas dans le moule, droguez-le. 2 semaines plus tard, alors qu'il dessinait tranquillement une voiture de course, Evan s'est redressé d'un seul coup et a transpercé le tympan de sa petite voisine de table avec son crayon. Fin de l'école maternelle pour Evan. Par la suite, nous avons appris qu'il avait été victime d'un effet paradoxal du Lexapro. Un effet paradoxal, c'est lorsqu'un médicament produit le contraire de l'effet attendu. Par exemple, lorsqu'un antalgique provoque une douleur ou qu'un sédatif provoque une hyperactivité. Le Lexapro était censé apaiser notre fils. Au lieu de ça, il l'a conduit vers de nouveaux sommets d'agitation. Et Evan a agi en conséquence. Nous avons trouvé un nouveau médecin pour Evan. Le meilleur praticien de Boston, nous a-t-on affirmé. J'ai engagé la nounou numéro 9 et je me suis faite à l'idée de scolariser Evan à la maison. Michael travaillait de plus en plus tard. Il fallait bien payer les visites chez les spécialistes, disait-il, comme si je ne sentais pas ces traces de parfum sur son manteau ou que je ne voyais pas qu'il vérifiait tout le temps s'il n'avait pas de texto sur son portable. Je me demandais si elle était jeune et belle, si elle avait des cheveux blonds cendrés aux racines bien entretenues. Peut-être que son ventre ne s'était jamais rempli de poison. Peut-être qu'elle pouvait emmener son fils faire les courses sans qu'il balance les fruits et légumes à la tête des autres clients. Peut-être qu'elle allait au restaurant sans que son enfant jette les pattes par terre et fasse des empreintes de main avec la sauce tomate. Peut-être qu'elle dormait la nuit, lisait le journal le matin et pouvait discourir avec esprit sur toutes sortes de sujets intéressant les adultes. Ou bien peut-être qu'elle se contentait de glousser en disant à Michael qu'il était un génie. Quand on est parent, on fait ce qu'on peut. On aime au-delà du raisonnable. On se bat au-delà du supportable. On espère au-delà du désespoir. On ne se dit jamais, jusqu'au tout dernier moment, que cela pourrait ne pas suffire. C'est vendredi, 4h de l'après-midi, et le ciel est noir de nuages d'orage. Avec la forte chaleur de ce mois d'août, la plupart des gens se réjouissent du répit annoncé. Moi, je m'en moque. Je suis partie de chez moi avec 5 minutes de retard, et maintenant je conduis trop vite pour essayer de rattraper le temps perdu. Je n'ai que 2 heures. Je les ai 2 fois par semaine. Ce n'est pas comme si je pouvais confier mon enfant de 8 ans à la fille de la voisine. Mais Michael me verse une pension alimentaire et je m'en sers pour payer un aide à domicile. Si bien que 2 fois par semaine, une personne spécialement formée vient garder Evan. Je profite d'un de ces après-midi pour passer à l'épicerie, à la pharmacie, à la banque, faire toutes ces choses que je ne peux pas faire avec Evan à mes basques. C'était hier. Aujourd'hui, pour mon 2e après-midi de liberté de la semaine, je vais au Friendly's. Ma fille m'y attend. Chelsea est assise sur une des banquettes du fond, Michael en face d'elle. Il porte un costume léger sur une chemise bleu vif de chez Johnson & Murphy. Le costume tombe avec élégance sur ses épaules musclées. Manifestement, il est fidèle à sa séance de boxe hebdomadaire. On a beau quitter le quartier d'où l'on vient, le quartier ne vous quitte pas. Quand Michael me voit me faufiler à travers la salle de restaurant bondé, il range son Blackberry et se lève de la banquette. « Victoria. » « Michael. » Même échange toutes les semaines. Nous ne dérogeons jamais. Je reviens pour 6h30. Il dit cela à Chelsea plus qu'à moi et se penche pour lui faire une bise sur la joue. Ensuite, il s'en va et je me retrouve seule avec ma fille. Chelsea a 6 ans. Elle a les cheveux bruns de Michael, c'est très fin. Elle se tient bien droite, grande pour son âge, d'une maturité précoce. Ça arrive quand on vit avec un grand frère comme Evan. « Vous avez commandé ?» demandai-je en me glissant sur la banquette de Michael. Je pose mon sac à côté de moi sur le vinyle rouge, elle secoue la tête. « Qu'est-ce qui te fait envie ?» J'ai l'air emprunté. C'est la même chose toutes les semaines. J'ai une soirée pour prouver à ma fille que je l'aime. Elle a 6 soirées qui lui disent le contraire. Chelsea referme son menu, ne dit rien. Un ballon éclate à l'autre bout de la salle et elle sursaute. D'après les termes du jugement de divorce, Michael est censé l'emmener chez le psychologue, mais je ne sais pas s'il le fait. Après tous les spécialistes que nous avons consultés pour Evan, il est brouillé avec ces choses-là. Mais Chelsea n'est pas Evan. C'est une fillette adorable qui a passé les 5 premières années de sa vie sans jamais savoir si son frère allait lui faire un câlin affectueux ou l'agresser dans une crise de rage psychotique. Elle a appris dès l'âge de 2 ans à quel moment courir s'enfermer dans les WC les plus proches. À 3 ans, elle savait faire le numéro des secours. Et elle était là lorsque, il y a 11 mois, Evan a trouvé le pied de biche dans le garage et fait voler en éclats toutes les fenêtres de la maison. Michael et Chelsea sont partis le lendemain. Depuis, Evan et moi sommes seuls. Comment va le centre aéré? Elle hausse les épaules. Il faut s'adapter à l'humeur du jour, alors je rapproche le gobelet rempli de crayons de couleur, je retourne mon set de table et je commence un dessin. Au bout de quelques minutes, Chelsea en fait autant. Nous colorions un moment, en silence, et je me dis que c'est suffisant. La serveuse arrive. Je commande une salade de crudités, Chelsea opte pour du poulet pané. Nous colorions encore un peu. « Je vais être demoiselle d'honneur », annonce-t-elle d'un seul coup. Je m'interromps, m'oblige à trouver du jaune, complète mon dessin de jardin. Un mariage ? Le divorce n'a été prononcé qu'il y a 6 mois. Je savais que Michael fréquentait quelqu'un, mais ça, ça paraît déplacé d'une certaine manière, comme un étalage de vulgarité au milieu d'un enterrement. Tu vas être demoiselle d'honneur ? Pour le mariage de papa et Melinda, ça sera pendant Noël. J'aurai une robe en velours vert. Tu seras magnifique. Papa dit que Melinda va être ma nouvelle maman. Chelsea ne colorie plus, elle me regarde. Elle va devenir ta belle maman. Après le mariage, tu auras une belle maman et une maman. Est-ce que les belles mamans aiment manger aux Friendlies ? Je ne vais pas y arriver. Je repose le crayon, les yeux rivés sur la table. Je t'aime, Chelsea. Elle reprend son crayon et se remet à colorier. Je suis fâchée, dit-elle presque sans s'émouvoir. Je ne veux pas de nouvelle maman. Sarah en a une et elle dit que les belles mamans, c'est pas drôle. Et puis je n'aime pas le velours vert, ça fait chaud. La robe est horrible. Je ne réponds rien. J'ai envie de la déchirer, continue-t-elle. J'ai envie de prendre des ciseaux et de la découper. Quick, quick, quick. Ou peut-être que je pourrais mettre plein de gouttes de peinture dessus. Tic, tic, tic. Comme ça, je serais pas obligée de la porter. Elle lève de nouveau les yeux. Maman, est-ce que je suis en train de devenir comme Evan ? Mon cœur chavire. Je lui prends la main. Il y a tellement de choses que je voudrais lui dire. Qu'elle est extraordinaire, unique, magnifique. Que je l'ai aimée dès l'instant où elle est née. Que rien de tout cela n'est de sa faute. Ni la maladie de son frère, ni a fortiori le choix de Sophie que fait sa mère jour après jour. Tu n'es pas ton frère, Chelsea. Evan a des choses dans la tête que personne d'autre n'a. Son cerveau fonctionne différemment. C'est pour ça qu'il se fâche tellement fort qu'il ne se contrôle plus. Tu n'es pas comme ça. Ton cerveau n'est pas son cerveau, tu es toi. Et tu as le droit d'être fâché. Ça nous arrive à tous d'être fâchés. « J'aime pas Melinda, » dit-elle d'une voix plus plaintive. « Papa est toujours au travail, il est plus drôle. » « Je suis désolée. »« C'est nul les mariages, c'est nul les belles-mamans, nul, nul, nul. »« Je suis désolée. » « Pourquoi est-ce qu'Evan ne peut pas s'en aller ? Papa dit qu'il suffirait qu'Evan s'en aille. » Je ne réponds pas. C'est là que le bât blesse entre Michael et moi. Il voudrait que ses enfants puissent être réparés, alors que j'ai appris à accepter le fait que notre fils est atteint d'une maladie qu'aucun médecin ne sait aujourd'hui guérir. Il n'empêche qu'Evan reste notre fils et que ce n'est pas parce qu'il rencontre des difficultés que nous devons le rejeter. La serveuse arrive avec nos commandes. Elle glisse 2 assiettes ovales sur la table. Je réorganise ma salade de crudités. Chelsea chipote ses frites. Evan te réclame, dis-je au bout d'un moment. Il voudrait que vous puissiez aller au parc ensemble. Chelsea hoche la tête. Il y a eu des moments où Evan et elle étaient complices. Quand il était calme, quand il était gentil et charmeur. Il jouait à se déguiser avec elle, lui permettait même de le coiffer. Il faisait des parties de cache-cache ou montait un groupe de rock en sortant toutes les casseroles. Dans ces moments-là, il était épatant et j'imagine que ce grand frère lui manque. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'autres incidents qu'elle aimerait oublier. C'est à cause de Chelsea que Michael m'a quittée. Il prétendait que mon incapacité à placer Evan en établissement spécialisé mettait la vie de notre fille en danger. Est-ce lui qui a raison ? Est-ce moi ? Comment le savoir ? Le monde ne nous offre pas de solution idéale, et je ne me voyais pas sacrifier mon fils, même pour ma fille. Alors je suis là. Elle est là. Et je l'aime tellement que ça me fait mal dans la poitrine et que je ne peux rien avaler. Je reste simplement assise en face de cette petite fille paisible et j'essaie de toutes mes forces de lui transmettre mon amour. Si je mets toute mon énergie à envoyer mon amour de l'autre côté de la table, si j'en fais une petite boule compacte et que je la touche plein de fois avec, peut-être qu'elle le sentira. Peut-être que, pendant une fraction de seconde, elle saura que je l'aime plus qu'Evan. Et que c'est pour ça que je devais la laisser partir. Elle va s'en sortir, alors qu'Evan a besoin de moi. Nous dessinons encore un peu. Je ne touche pas à ma salade. Chelsea mange des frites. Elle me raconte qu'elle a essayé un violon en stage de musique. Et que Sarah et elle se sont disputées parce que Sarah avait dit que Hannah Montana était mieux que les Cheetah Girls, mais ensuite elles se sont accordées pour dire que High School Musical, c'était le mieux du monde. Et maintenant elles sont de nouveau copines. La danse commence dans 2 semaines. Elle est inquiète pour son premier jour d'école. Elle me demande si on pourra aller acheter des vêtements ensemble pour la rentrée. Je dis que je vais essayer. Je vois à la tête qu'elle fait qu'elle sait déjà que ça n'arrivera pas. La serveuse débarrasse nos assiettes. Chelsea est toute ragaillardie à l'idée de manger une glace. Elle choisit un sundae enfant. Je passe mon tour, même si manger une glace serait bon pour moi. J'aurais bien besoin de me remplumer un peu. Peut-être que je devrais me mettre au régime crème glacée. J'en mangerai 3 litres par jour et j'enflerai jusqu'à peser 150 kilos. Pour ce que les gens s'inquiéteraient. M'apitoyer sur mon sort ne mène à rien. Alors je reprends la main de ma fille dans la mienne. Aujourd'hui, elle me laisse faire. La semaine prochaine, on verra. Elle va avoir une deuxième mère, une femme que je n'ai jamais rencontrée. J'essaie de me la représenter et mon cerveau reste fixé sur l'image d'une blonde, la vingtaine, plus jeune, plus jolie, plus gaie que moi. Elle aidera Chelsea à se choisir des vêtements pour la rentrée, lui fera peut-être des nattes. Elle sera la première au courant des mélodrames de Chelsea à l'école, lui donnera éventuellement des conseils pour se comporter avec ses amis, tout aussi adepte du mélodrame. Elles s'attacheront l'une à l'autre. Peut-être qu'il viendra une semaine où Chelsea n'aura plus envie de venir aux Friendlies. Je voudrais être amère, mais quel intérêt? Le rôle de Chelsea est de grandir, d'aller de l'avant. Le mien est de la laisser partir. Mais je ne pensais pas que ça se produirait à l'âge de 6 ans. Michael entre dans le restaurant. Il ne dit rien, reste planté là. Chelsea et moi comprenons le message. Je pose de l'argent sur la table pour l'addition et rassemble mes affaires. Le temps que je quitte la banquette, Michael est déjà en train de sortir et Chelsea s'attarde quelque part entre nous deux, comme pour réduire la distance entre son père devant et sa mère derrière. Je la rattrape et nous poussons les portes vitrées vers l'extérieur, où l'orage a enfin éclaté et où il tombe des trombes d'eau rafraîchissantes. Nous hésitons sous la marquise, nous préparant à piquer un sprint vers les voitures. Michael profite de ce moment pour dire « Je suis sûre que Chelsea t'a parlé du mariage. »« Félicitations, » dis-je avant de gâter l'ambiance en ajoutant « Quand voudrais-tu qu'on fasse les essayages pour le smoking d'Evan ?» Le regard qu'il me lance aurait tué une femme moins solide. Je lui rends l'appareil. Je le mets au défi de renier notre aîné, qui demande encore quand son père rentrera à la maison. « Ce n'est pas moi qui t'ai quitté. » dit-il sèchement à voix basse pour que Chelsea n'entende pas. « C'est toi qui m'as quitté. Tu m'as quitté à la seconde où tu as décidé que les besoins d'Evan passaient avant ceux de tous les autres. C'est un enfant qui a besoin d'être pris en charge à plein temps par des professionnels. En établissement, tu veux dire. Il y a d'autres manières de l'aider. Tu as refusé en bloc de les envisager. Tu as décidé que tu savais mieux que tout le monde, qu'il n'y avait que toi et toi seul qui pouvais l'aider. » Après ça, nous n'avons plus compté, Chelsea et moi. Tu ne peux pas nous reprocher de continuer à vivre. Et pourtant, ai-je envie de lui dire. Et pourtant. Il fait signe à Chelsea qu'il est temps de partir. Tête basse, elle a l'air éteinte. Même si elle n'entend pas ce que nous disons, elle sait que nous nous disputons et ça lui fait de la peine. Je prends ma fille dans les bras. Je sens la soie de ses cheveux, la légèreté de son corps mince. Je respire l'odeur du shampoing à la noix de coco et des feutres Crayola. Je la serre, fort, parce qu'il va falloir que ce câlin me dure toute une semaine. Et je la laisse partir. Son père et elle traversent en courant le parking balayé par la pluie, les mains sur la tête pour se protéger du déluge. Quelques instants plus tard, ils sont tous les deux dans la BMW de Michael, qui démarre, ses feux arrière rougeoyant dans la pénombre. J'ignore ce que ressent un père qui abandonne son fils. Je sais seulement ce que ressent une mère qui abandonne sa fille. Quand mon cœur s'en va dans une voiture et me laisse un trou béant au milieu de la poitrine. Je sors sous l'orage. Plus rien ne me presse. Je laisse la pluie tremper mes cheveux, frapper mon chemisier blanc. Je laisse le déluge marteler mon visage. Vendredi soir. Encore 3 jours, me dis-je. Je rentre retrouver Evan.